Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais saluer particulièrement les personnes qui viennent peut-être pour la première fois ou la deuxième ce matin, et puis tous ceux qui viennent régulièrement aussi. Vous savez, nous sommes embarqués dans la lecture suivie du Sermon sur la montagne pour quelques semaines. Alors, Sylvie, si tu veux bien afficher le truc, et puis je n'ai pas la zapette, donc je te ferai signe. La semaine dernière, nous avions entendu que la Torah, la loi de Dieu, reste d'actualité et que Jésus n'est pas venu pour faire table rase, mais au contraire pour accomplir cette loi, la mettre en pratique dans sa vie jusqu'à la perfection. Et même Jésus va reformuler la Torah, la loi de Dieu, à sa manière, pour qu'elle nous devienne encore plus compréhensible. Il va dire: « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Et puis un peu plus loin, il ajoute: comme moi, je vous ai aimé. Alors aujourd'hui, nous continuons donc le chapitre 5 de Matthieu, à partir du verset 21. Je vous propose qu'avant de lire, nous puissions prier ensemble. Notre Père, viens nous ouvrir le cœur et les oreilles. Amen. Prière courte, efficace. La suite, ça décoiffe, vous allez voir. Donc, on va lire à partir du verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de raca, ça veut dire n'importe quelle insulte que vous préférez, imbécile, nul, voilà, sera passible du Sanhédrin. Celui qui traitera de fou sera passible de la gêne du feu. Alors, avant de voir le contenu, voyons un petit peu comment Jésus met en forme sa parole. Je l'ai mis en gras, hein, mais dans la suite de son discours, il va utiliser une petite formule qu'il va répéter à manière régulière, un peu comme un refrain. Il dit: vous avez entendu qu'il a été dit. Et ça, il fait référence à la tradition, à ce qu'il y a avant lui. Et puis, il enchaîne en disant: mais moi, je vous dis. Et en quelque sorte, il va transformer, il va reformuler, ou il va innover. Alors, au temps de Jésus, ce n'était pas très rare que les rabbins fassent de même, car la parole de Dieu, elle est là non pas pour être prise à la lettre, mais pour comme une recette. Hein, doit suivre absolument. Non, elle est là pour être interprétée, pensée, appliquée. Alors, dans un dîner organisé par le pharisien Simon, il racontait qu'une femme, une ancienne prostituée, est venue verser du parfum sur le pied de Jésus. Vous connaissez cette histoire. Et Simon, le pharisien, il est extrêmement choqué parce qu'il méprisait cette femme et peut-être tout ce qu'elle représentait. Et il se dit en lui-même: mais si Jésus savait qui était cette femme, il ne l'aurait jamais laissé faire. Et Jésus lui répond: mais Simon, cette femme démontre son amour parce que ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Elle se savait aimée de Jésus. Elle connaissait Jésus comme l'ami des pécheurs, celui qui aime les pécheurs. Alors Jésus ne fait pas la morale, pas plus qu'il demande de venir des bisounours polis, bien élevés, qui ne disent jamais de gros mots, qui disent jamais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand les gens vous conduisent, ils changent de personnalité. Vous pouvez rencontrer la personne la plus jolie, la plus gentille, pardon, mais dès qu'elle est au volant et que vous vous approchez un petit peu trop, que vous lui faites une queue de poisson, elle se change en quelqu'un qui est prêt à rétablir la peine de mort. Et quand Jésus donc nous dit de, quand on traite notre frère ou notre sœur d'imbécile, de raca, de vaurien, toute autre expression de votre choix qui rivalise avec celle du capitaine Haddock, est-ce que tu continues à considérer ton frère ou ta sœur comme ce qu'il est? Ton frère ou ta sœur. Alors, Jésus nous présente l'Évangile nous présente Jésus comme quelqu'un qui utilise les insultes. Par exemple, dans Matthieu 24, il traite les pharisiens et les scribes de sépulcres blanchis. Ça veut dire quoi ? Tu es une belle tombe, toute belle, toute repeinte à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu es plein de cadavres et de pourriture. C'est pas très sympa. À un autre moment, Jésus insulte Pierre et lui dit « Satan !» Ça, c'est une sacrée insulte quand même. Alors Jésus déclare que nos paroles peuvent tuer. Mais au-delà de nos paroles, il veut mettre la lumière sur nos intentions, notre disposition de cœur. Qu'est-ce qui se passe au fond de nous ? C'était le sujet pour son époque. Les pharisiens avaient fait une codification de tout ce qu'il fallait faire. Et Jésus leur dit, mais vous êtes à côté de la plaque, mes amis. C'est ce qui se passe en vous qui m'intéresse. Alors, Jésus, bien sûr, enchaîne sur une ouverture, celle de la réconciliation. La suite, c'est si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alors, on ne va pas forcer notre frère à se réconcilier. C'est impossible. Pas plus qu'on peut se forcer soi-même. Si quelqu'un a été vraiment blessé, il va peiner à pardonner. Parce que la force de pardonner, ça ne se commande pas. Ça se reçoit de Dieu comme une guérison progressive de notre âme. Donc ce que Jésus nous propose ici, c'est de nous réconcilier nous-mêmes avec l'autre quand l'autre nous en veut à nous. C'est l'idée de base, si essentielle qu'a eu Jésus de dire « Continue à vouloir du bien, même à ton ennemi, à celui qui te persécute. » Se réconcilier, ça veut peut-être dire juste accepter que l'autre soit digne d'avoir un point de vue. Juste ou injuste, ça allait passer une autre question. De même que moi, je suis digne d'avoir un point de vue. Et peut-être nos points de vue sont différents, mais nous continuons à être dans la relation. Alors, lisons le passage suivant. Vous allez reconnaître le refrain de Jésus. Je fais un petit signe à Sylvie. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Alors, dans ce second exemple, il choisit bien ses exemples, Jésus, vous ne trouvez pas. Il met le doigt sur un sujet au cœur des relations humaines, le désir, l'attraction que les hommes et les femmes ont entre eux. Alors bien sûr, Jésus continue à valoriser le mariage, l'engagement d'un couple, d'un homme et d'une femme, pour le meilleur ou pour le pire, jusqu'à ce que la mort les sépare. Alors ça, c'est le code civil. Enfin, c'était avant, parce qu'il a changé depuis. Mais Jésus met aussi en lumière une caractéristique fondamentale de l'être humain, la sexualité, qui est au tréfonds de notre être, de notre humanité. Elle est attestée, elle est célébrée dès la première page de la Bible, comme un don de Dieu, il les créa hommes et femmes, à son image. Alors moi, je suis toujours étonné qu'on parle si peu de la sexualité dans nos églises, alors que c'est un sujet vraiment au cœur de nos vies, et à tout âge. Quand on apprend qu'un couple attend un enfant, et vous le savez, c'est notre joie en ce moment avec Hélène, et oui, notre famille s'agrandit. Alors, en général, on pose deux questions. C'est pour quand ? Alors, pour nous, c'est dans moins de 2 mois. Et la deuxième question, c'est un garçon ou c'est une fille ? Vous voyez, la sexualité, l'identité qui l'accompagne est au cœur de nos préoccupations. Et c'est là un tout petit exemple, et je suis persuadé que vous ferez seul la liste de tous les impacts de la sexualité dans notre vie. Alors là, encore, Jésus ne fait pas de morale, mais il explique que dans la pensée de Dieu, ce n'est pas le passage à l'acte qui est répréhensible. Alors dans certains milieux, on dit « pas vu, pas pris ». Là, peut-être chez les Juifs, on disait « pas fait, pas pris ». Mais Jésus va plus loin. Il englobe dans la loi non seulement les actes, mais aussi les intentions, les désirs, tout ce qui se joue au plus profond des pensées, des sentiments, des désirs et du corps de ses auditeurs. Si tu regardes une femme pour la désirer, tu as déjà commis l'adultère. Alors, je ne vous apprends rien, mais de nos jours, la sexualité est un petit peu exploitée commercialement. On vend mieux une voiture si on met une jolie fille dedans, dans la pub. Et la télé, ça date du siècle d'avant. Dans notre siècle, maintenant, c'est plus la télé qui fait la loi et qui impose sa mentalité, mais c'est Internet. Avec tout ce qu'il y a de positif et aussi de mauvais. Alors parlons un petit peu pornographie, si vous voulez bien, ce matin. Une récente étude indique que 65% des jeunes de 13 à 30 ans reconnaissent consommer de la vidéo porno au moins une fois par semaine. Bon, c'est édifiant. 65%, ça veut dire 2/3, 2 sur 3. Alors ne commencez pas à regarder qui c'est qui est le... J'en ai 3 là, alors c'est lequel des 3 ? Alors ce que je trouve particulièrement édifiant, c'est que les sondages, ils parlent toujours des jeunes, des ados. Ils parlent jamais des plus de 30 ans. Et quel est le pourcentage de consommation de la pornographie chez les 30, 40, 50, 60, 70 ans ? Quelle est la pratique des adultes dans notre société ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui osent en parler, les jeunes et les moins jeunes, avouent qu'ils se sentent sales, salis, souillés, qu'ils en ont honte, qu'ils aimeraient ne plus le faire. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que il est peu probable que tu trouves la force seule de te défaire de cette mauvaise habitude. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que si tu demandes de l'aide, si tu oses sortir du silence, bien sûr auprès d'une personne de confiance, les pourcentages de réussite sont très très élevés. Alors avec ces fameux films, photos, autres vidéos, livres, on est bien plus loin que le simple fait de désirer dans son cœur. Et la suite de Jésus est tout à fait à propos, même si elle s'applique à davantage. Si ton œil droit doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi de perdre une partie de ton corps et que celui-ci ne soit pas jeté tout entier dans la géhenne. Si ta main droite doit causer ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-là n'aille pas tout entier dans la géhenne. Alors je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Si on appliquait ça à la lettre, combien serions-nous de borgnes, d'aveugles, de manchots ? Appliquer ça à la lettre, c'est plus l'évangile, mais c'est une sorte de charia, sous sa version déformée et violente. Alors bien sûr, les paroles de Jésus sont là pour nous choquer, pour nous faire réagir, nous mettre face à notre réalité intérieure. Alors continuons la lecture et passons à la fin du chapitre. On va passer au verset 40. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire un mille, c'est-à-dire marcher 1,5 km, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter quelque chose. Alors tous les rabbins, peut-être, sauf peut-être quelques fous furieux, disent qu'il n'a jamais été question de crever l'œil à celui qui a éborgné quelqu'un. D'ailleurs, dans le livre du Lévitique, avant même qu'il soit écrit ce fameux « œil pour œil, dent pour dent », Moïse écrit « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » C'est dans Lévitique 19. Et donc tous les rabbins de toutes les époques interprètent ce œil pour œil, dent pour dent, non comme une vengeance, ni comme un appel à mutiler le coupable, mais comme un appel à indemniser la victime. Et cela est même mis en question puisque le riche pourrait alors blesser son prochain tout à son aise, n'ayant aucun mal pour payer les dents cassées et les yeux crevés du pauvre. Mais cette peine qui peut demeurer lancinante au-delà de toute indemnisation possible. Et donc Jésus ne fait rien de blasphématoire quand il interprète ce qu'on appelle la loi d'Italie en ajoutant « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si on te frappe sur la joue droite, présente l'autre. » Alors le commandement de ne pas résister aux méchants, on ne peut pas non plus le prendre à la lettre. Parce qu'on pourrait laisser le méchant triompher et faire d'autres victimes. Et donc il n'est pas possible d'isoler ce seul verset des Écritures et d'en faire un absolu. Quelques lignes plus haut, vous rappelez, on a lu ce qu'on appelle les béatitudes et Jésus nous invite à avoir faim et soif de justice et à s'engager pour elle. Alors comment comprendre cette tension entre ne pas résister aux méchants et le combat pour la justice ? On voit bien qu'il y a un appel à chacun de nous interpréter, appliquer la parole de Dieu, la confronter aux circonstances, aux situations de nos vies. Et donc, dans les circonstances, dans les possibilités, Jésus donne une option. Dans certains cas, une option, c'est de ne pas résister aux méchants. Mais dans d'autres, l'appel au combat pour la justice, c'est une option à prendre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette petite devinette à propos de l'histoire du bon samaritain. Vous connaissez l'histoire, un homme se fait détrousser sur le chemin de Jérusalem, à Jéricho. Donc c'est un chemin qui passe par ce qu'on appelle aujourd'hui Wadi Kelt. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Le bon samaritain met l'homme à demi-mort sur son âne, l'emmène à l'hôpital et puis même, il paye les soins. Et imaginons la suite. La semaine suivante, le brigand se remet à sa place et un autre promeneur est passé à tabac. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors on a plusieurs possibilités, on pourrait monter une embuscade contre le brigand et lui faire la peau. On pourrait envoyer le bon samaritain régulièrement, comme ça il ramasserait les gens. Et en fait, non, ce n'est pas le bon samaritain qu'il faut envoyer. C'est qui ? C'est les gendarmes, pour qu'ils arrêtent le brigand et qu'ils le mettent en prison. Ça, c'est la justice aussi. Et voilà comment résister au mal. Alors Jésus continue, slide d'après. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les collecteurs de taxes, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les non-juifs, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant ? Vous serez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors Jésus déclare cette chose bizarre. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Et cette dernière parole, elle n'est pas du tout dans la Bible. Ce n'est pas marqué « tu détesteras ton ennemi ». Elle n'existe pas, cette parole, dans la Bible. Elle existe où ? Dans nos cœurs. Certainement dans l'éducation aussi. Ah, lui, c'est notre ennemi. Vous savez, le village d'à côté, c'est notre ennemi. Hein, l'héros, ah. Ceux qui sont de l'autre côté des frontières. Bon, vous avez compris. Voilà. Et donc Jésus ose mélanger la parole de Dieu et la parole du monde et les mettre bout à bout. Parce que c'est souvent ce qu'on fait, nous aussi. On fait nos petits arrangements. Alors, on raconte une histoire intéressante à propos de Benjamin Franklin. Vous savez qui c'est ? C'est l'inventeur du paratonnerre. Mais il a inventé bien d'autres choses. Il paraît qu'il a inventé le poêle à bois, les sapeurs-pompiers volontaires. Il a fortement inventé ou constitué à inventer les États-Unis d'Amérique et tant d'autres choses. Il a inventé les bibliothèques. Le fait d'aller dans un endroit où il y a des bouquins et qu'on puisse les emprunter, c'est lui qui a inventé ça, s'il aimait beaucoup les livres. Et justement, il avait un ennemi. Et cet ennemi avait une bibliothèque personnelle. Et Benjamin Franklin, lui aussi, était donc amateur de livres, puisqu'il avait créé les bibliothèques. Et il eut une idée. Il envoya une lettre à son ennemi en lui demandant si par hasard il accepterait de lui prêter tel ouvrage qui était rare et qui l'intéresserait. Et on ne sait pas pourquoi, l'ennemi lui envoya le livre. Et puis, il lui répondit par une lettre. Ils ont commencé à échanger par des lettres comme ça. Et plus tard, ils se rencontrèrent. Et ils devinrent les meilleurs amis du monde. Dieu fait se lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Alors, je voudrais encore vous raconter une petite histoire. Et figurez-vous que c'est une histoire vraie, comme celle que je vous ai déjà dit avant. Mais celle-là, elle se passe dans notre assemblée. Et elle est arrivée il y a à peine une dizaine de jours. Ce n'était pas la semaine dernière, c'était celle d'avant. Notre Dieu agit constamment pour ceux et celles qui se mettent à son écoute. Et ça se passe à Nîmes, une dizaine de jours. Une personne de notre église, je ne vous dirai pas qui c'est, parce que ce n'est pas ça qui est important. Donc, une personne de notre église croise le matin une femme dans la rue. Bon, jusque-là, la journée se poursuit. À midi, cette personne croise à nouveau la même femme dans la rue. Tiens, c'est rigolo, coïncidence. Et puis la journée se continue. Et puis le soir, elle croise cette femme pour la troisième fois. Et cette fois-ci, donc la personne de notre assemblée se dit, mais tiens, c'est bizarre, le Seigneur est peut-être en train de me parler. Et là, cette troisième fois, la femme qu'elle avait rencontrée était avec sa fille, elle sortait d'un endroit et la femme était en pleurs. Alors notre personne s'approche et gentiment propose de l'aide, demande si tout va bien, si elle peut faire quelque chose. Alors elle discute, la femme lui explique qu'elle souffrait énormément de la hanche et donc notre ami lui propose de la raccompagner, de la porter, etc. Et la discussion s'installe, elle aurait pu se terminer là, la femme dit non, c'est pas la peine, machin. Et puis notre ami dit simplement, si vous voulez, je peux prier maintenant. Alors la femme surprise dit, ben oui, pourquoi pas, allez-y. Et à la fin de la prière, elle dit, bon, et maintenant, alors, comment ça va? Alors la femme se met à marcher, elle dit, mais la douleur a disparu, j'ai plus mal, merci, merci. Et notre ami répond, mais vous savez, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est Jésus qui vous a guéri. Dieu fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons. Alors pour continuer, et puis pour terminer, je voudrais vous proposer de nous focaliser un petit peu sur ce que je vais appeler la théologie de Jésus. Théologie, vous savez, ce n'est pas un gros mot, hein, n'ayez pas peur, ne commencez pas à partir. La théologie, c'est qu'est-ce qu'on connaît de Dieu? Et quelle est la théologie de Jésus? C'est qu'est-ce qu'on sait de Dieu grâce à Jésus? Et donc dans ce passage de l'Évangile, nous lisons que Jésus parle de Dieu d'une certaine manière. Dans ce sermon sur la montagne, il appelle toujours Dieu de la même manière. Et ça nous apprend quelque chose sur Dieu. Alors on le sait, Jésus nous fait connaître Dieu. Il nous le révèle par ses paroles et ses actes. Il est souvent une personne qui encourage, qui pardonne, qui manifeste la douceur et la tendresse incarnée pour chacun. Et Jésus a aussi parfois une attitude dure, exigeante, comme dans les paroles provocantes, ces paroles impossibles, comme celle de ne pas résister aux méchants et d'aimer nos ennemis. Et ces paroles, il faut le dire, elles nous agressent. Elles nous font sentir que c'est impossible à nos forces, impossible pour notre cœur et notre pensée, impossible pour notre désir d'un peu plus de justice dans ce monde de brutes. Et heureusement, ces mêmes paroles qui nous disent à nous, dont les oreilles sont écorchées, à nous qui avons du mal à aimer, à pardonner, Ces paroles de Jésus nous disent que Dieu est le premier, le seul à nous pardonner, à nous aimer, même quand nous en sommes complètement incapables. Et Jésus ne fait pas la morale, vous le savez, mais ce qu'il dit, il le fait aussi. Jésus a aimé ses ennemis. Par exemple, Nicodème le pharisien, il lui a consacré une entrevue de nuit pour le mettre sur la voie du salut. Jésus a prié pour ceux qui le clouaient sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais bien plus, Jésus a donné sa vie en rançon pour tous ses ennemis, dont nous faisons partie un siècle plus tard. Paul déclare que quand nous étions encore sans force, le Christ, en son temps, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être même quelqu'un aurait le courage de mourir pour un homme bon. Mais voilà comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort alors que nous étions encore pécheurs, ennemis. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Jésus nous montre qui est Dieu. Et nous savons maintenant que Dieu est bienveillant parce que Jésus l'était et qu'il ne rejetait personne, qu'il pardonnait et priait même pour ses ennemis. Nous savons qu'aux yeux de Dieu, nous valons plus que tout parce que Jésus s'est donné entièrement pour nous sauver. Alors c'est ça qui est curieux, c'est que Jésus ne nous dit pas tellement qui est Dieu. Et voilà donc dans notre passage où Jésus nous parle de Dieu. Et sa théologie tient en deux ou trois mots. C'est le slide d'après. Votre Père, qui est dans les cieux, est parfait. Alors, vous êtes aussi fort en maths qu'en français, et si vous comptez les mots, hein, en français, ça fait 9. Mais en hébreu, ou en araméen, la langue que probablement Jésus parlait, ça n'en fait que 3. Abikem ou Abirem, Seba Shamaïm, Salem. Alors on pourrait demander à Chantal et à ses élèves de nous expliquer ces trois mots. Jésus nous propose d'être parfait, d'être accompli, d'être en paix comme lui, Dieu, et d'aimer autant que lui aime. Rien de moins. Et c'est toujours cette constante chez Jésus d'associer son discours, sa théologie et son cheminement de vie. Alors bien sûr, nous, on n'est pas parfait comme Dieu, et je vous l'annonce, ça ne sera pas demain la veille. Nous, on fait partie des gens qui ne font pas d'omelette sans casser des œufs, et nous ne pouvons faire que ce que nous pouvons à notre rythme, en aimant comme nous le pouvons, en agissant comme nous le pouvons, en bénissant et en priant comme nous le pouvons, si possible, un peu plus chaque jour. Et quand Jésus nous appelle enfants, c'est que Dieu ne nous en veut pas d'être un peu petits. Comment voudrait-on à un enfant de 5 ans de ne pas être capable de battre le record du 100 mètres? Mais quand Jésus appelle Dieu celui qui est dans les cieux et qui est parfait, il dit que cette perfection est de l'ordre de l'amour sans condition. C'est aussi un but que Jésus nous propose de poursuivre dans notre développement. Jésus parle de Dieu en disant « votre Père ». Nous avons l'habitude de ces mots. Il se peut que nous les répétions comme un perroquet en ayant oublié le sens. Jésus présente Dieu comme votre Père. Un peu plus loin, on le verra dans les semaines suivantes, ton Père, mon Père. Il nous apprend à prier en disant notre Père. Dieu n'est pas abstrait, mais il est et il restera pour vous comme un Père parfait et aimant. Même si vous êtes encore un peu loin d'être à un niveau acceptable. Et c'est une autre promesse, il n'a pas été seulement source de vie à l'origine, notre créateur, géniteur de la race humaine, il reste aussi aujourd'hui une source pour notre progression, une nourriture pour notre énergie, un soutien quand nous fléchissons, une voie qui nous enseigne la vie. Un peu plus loin, Jésus nous indique, voici comment vous devez prier, comment vous pouvez vous adresser à Dieu, notre Père qui est aux cieux. Habille-nous Sheba Shamaïm. Là encore, c'est deux mots en hébreu. La première chose qu'on le remarque, c'est que c'est une prière. Et Jésus, au lieu de faire des discours sur Dieu, Jésus propose de le connaître en s'adressant à lui. Et nous pouvons noter l'exemple quand nous parlons autour de nous, aux gens qui cherchent Dieu. Pas besoin de faire des longs discours. Invitons-les à s'adresser eux-mêmes à Dieu, avant même de savoir qui est Dieu vraiment, avant même de savoir s'il existe. Jésus nous dit avec ces deux mots, qui sont une prière, que Dieu est quelqu'un avec qui l'on peut parler, quelqu'un qui écoute et qui fait quelque chose de ce qu'on lui dit. C'est le premier point important, essentiel. Et Jésus nous propose de commencer par nous placer simplement devant notre Père qui est aux cieux. Et que la prière, c'est avant tout cela. Et Jésus insiste avant et après ce passage pour dire que ce n'est pas la peine de demander à Dieu toutes sortes de cadeaux, parce que Dieu sait très bien ce dont nous avons besoin. Et donc on peut en déduire de ces paroles de Jésus, c'est que Dieu, ce n'est pas le Père Noël. Ça peut paraître évident, mais je ne sais pas, vous et moi, est-ce qu'on n'a pas sans arrêt envie de demander à Dieu, fais-moi ceci, fais-moi cela, fais en sorte que ceci, j'ai un petit souci, hop, viens vite, régler tout ça, donne-moi cela, aide un tel, nourris les affamés, guéris les arabes, les malades. Pardon. Vous voyez, on fait une liste de choses. Est-ce que nos prières ne ressemblent pas à une liste de choses comme notre liste au Père Noël? Alors, qui est Dieu? Il est un être de relation. Qui est Dieu? Il est un être de relation. Prions et entrons dans la relation avec lui. Il est celui qui est parfait, Shalem, qui peut traduire aussi par entier, pacifique, paisible. Jésus est le Fils par excellence. Il déclare « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et c'est ce qu'il a fait, il a partagé sa condition de Fils de Dieu avec nous les humains, pour que nous aussi nous soyons fils et filles de Dieu. Nous sommes imparfaits, mais nous sommes fils et filles de Dieu le Père qui est parfait. Amen. Je vous invite à prier. Notre Père, toi qui es aux cieux, nous te remercions pour les enseignements de Jésus. Merci parce qu'ils viennent nous dépoussiérer. Ils viennent nous mettre en tension, même si on se rend bien vite compte qu'on est incapable. Et merci parce que tu es notre Père qui est dans les cieux et que tu es parfait. Amen.